France Inter. France Inter. Le 18-20, Éric Delvaux.
Une semaine en France est consacrée ce soir à l'avenir des centres commerciaux. L'idée nous est venue en constatant des projets de démolition dans plusieurs communes de France, comme si ces déconstructions annonçaient la fin d'un cycle lancé au début des années 80, celui des hypermarchés et de leurs galeries marchandes qui ont elles-mêmes commencé à vider les boutiques des centres-villes, le e-commerce ayant fait le reste. Eh bien, à leur tour, les centres commerciaux se vident parfois. Y aurait-il donc un retour de bâton, pas si sûr au regard des derniers chiffres de fréquentation. On verra ça tout à l'heure avec nos invités. Comment les centres commerciaux peuvent-ils se réinventer encore une fois, au risque de disparaître? Quels sont leurs atouts face au e-commerce? Que vient-on chercher dans un centre commercial, si ce n'est un peu de sociabilisation comme dans les centres-villes d'il y a 40 ans? C'est le thème d'une semaine en France. Bienvenue.
Éric Delvaux. Le 18-20.
Avec un premier témoignage, nous sommes en ligne avec le premier adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, aux portes de Paris. Bonsoir Romain Marchand.
Bonsoir.
Vous êtes donc le premier adjoint de cette commune d'Ivry-sur-Seine, en charge notamment de l'aménagement du territoire. Votre municipalité a décidé de démolir le centre commercial Quai d'Ivry. Le bâtiment date du début des années 80. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de démolir ?
Bah, en effet, ça fait des années qu'on constate un essoufflement de ce centre commercial Quai d'Ivry. Les propriétaires nous disent que, selon eux, c'est un processus qui est irréversible, qui est dû d'une part au changement de mode de consommation, notamment vers la vente en ligne que vous évoquiez dans le début du sujet. Aussi au fait que les gens préfèrent aujourd'hui fréquenter des commerces qui sont en ville, sur les voies publiques, plutôt que d'aller s'enfermer dans un centre commercial. Et puis aussi au montant des charges de fonctionnement de ces centres qui sont très coûteux et qui entraînent des loyers très élevés pour les commerçants et donc aussi des difficultés d'équilibre pour eux.
Et depuis quand les 60 000 mètres carrés du Quai d'Ivry sont-ils devenus ce qui ressemble désormais, paraît-il, à un vaisseau fantôme ?
Oui, on peut dire ça un petit peu. De fait, c'est un processus qui a été long. Ça fait une quinzaine d'années maintenant que progressivement, le centre perd des boutiques. C'est d'abord des premières enseignes qui sont parties. Et puis progressivement, le phénomène s'est accéléré. Et ce qui nous a aussi un peu convaincus, c'est qu'on s'aperçoit que dans notre environnement proche, on voit des centres commerciaux de taille similaire. Il y en a un autre juste de l'autre côté de la Seine, Bercy 2 pour pas le nommer, qui est dans la même situation. Et donc, on était assez convaincus que ce phénomène était irréversible. J'ajoute que pour Ivry, ce centre commercial qu'il y a d'Ivry, au plan urbain, c'est plutôt qu'un vaisseau fantôme, c'est plutôt une verrue de 4 hectares et demi qui est totalement bâtie en bord de Seine, avec pas un centimètre carré d'espace vert, des bâtiments qui surplombent des voies publiques. Donc, au plan urbain, on a aussi, nous, un intérêt à recréer de la ville à la place de ce paquebot, quoi.
On va parler de votre projet dans un instant. Que deviennent les quelques enseignes qui sont encore présentes dans la galerie ?
Bah, elles survivent tant bien que mal. Après, pour toutes les cellules qui ont été libérées, on travaille avec les propriétaires du centre sur une occupation provisoire du site. Donc les cellules qui sont aujourd'hui libérées sont occupées par des associations ou des organisations, des organismes d'économie sociale et solidaire, et ils profitent en attendant de cette mutation.
À la place de ce centre commercial d'Ivry-sur-Seine, il y aura donc des logements. Quelle sorte de logements en grande partie ?
Alors, ce ne sera pas uniquement des logements. Nous, le projet sur lequel on avance repositionne des commerces le long des voies publiques, puisqu'on ne tourne évidemment pas le dos à l'idée qu'on a besoin de commerces en ville, des espaces verts et des liaisons piétonnes pour les habitants du quartier. Et en effet, un programme de logements, notamment de logements sociaux, parce que dans une ville comme Ivry, proche de Paris, l'enjeu du logement abordable est un enjeu qui est premier pour les habitants. Et dans le programme, il y a aussi des locaux d'activité économique pour conserver des emplois.
Ce sera donc aussi, vous le disiez, une zone revégétalisée. De quelle manière, dans quelle proportion ?
Bah, on a sur l'ensemble de la parcelle, on a un nouveau jardin public de 7500 m² qui va être aménagé dans le cadre du projet. je le redis, à la place d'une parcelle sur laquelle il n'y a aujourd'hui pas un seul centimètre carré de libre.
Avec aussi des sols désimperméabilisés, hein, c'est important aussi. Les habitants d'Ivry-sur-Seine semblent partager, d'après ce que j'ai lu, sur la démolition de ce centre commercial. Quelle remontée, vous, avez-vous de la population locale ?
Alors, ce projet, il a été élaboré en concertation avec les habitants du début à la fin. À aucun moment de la concertation, on a ressenti de rejet de la part des habitants sur le fait de démolir ce centre commercial. Après, il y a des débats, évidemment, sur le projet qui sera construit, mais ça, tout projet urbain génère des débats et c'est bien naturel. Mais on n'a pas vu d'habitants qui nous ont dit « Ah si, on veut absolument garder ce centre commercial ».
Et connaissez-vous, en Ile-de-France ou ailleurs, d'autres communes qui envisagent, comme vous, de démolir leur centre commercial ?
Bah, je vous le dis, de l'autre côté de la Seine, on a le centre commercial Bercy 2, qui, je crois, dans les projets de Paris et de Charenton, est aussi voué à disparaître, ou en tout cas à être profondément transformé. Moi, j'ai l'impression, de ce que je vois, que les seuls centres commerciaux qui finalement réussissent à résister, ce sont les très grands centres régionaux, mais que les centres de taille intermédiaire comme les nôtres disparaissent. Au fond, pour nos villes, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que avoir des commerces qui sont sur rue, qui créent de la plus de liens entre les habitants, plus de convivialité, c'est peut-être plus agréable que ces gros paquebots urbains. Et puis peut-être que ça correspond aussi à une évolution des modes de consommation. Je pense que ces centres commerciaux, ils correspondent aussi à une époque très consumériste, qui n'était pas forcément porteuse que de bonnes choses. Et dans les sujets juste avant, j'entendais parler de seconde main, oui, de réemploi. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que promouvoir des logiques de réemploi et de consommation plus responsable, c'est peut-être une bonne chose aussi pour les enjeux environnementaux auxquels on est confronté.
Eh bien, on va parler de tout ça justement jusqu'à 19h. Merci beaucoup de ce témoignage, Romain Marchand, donc premier adjoint au maire d'Ivry-sur-Seine, en charge notamment de l'aménagement du territoire. Un dernier mot, à partir de quand commenceront les travaux pour une livraison de chantier, à quelle échéance ?
Alors, c'est toujours difficile. Je pense que les travaux devraient commencer d'ici la fin de l'année prochaine, mais
c'est pas sûr. Il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le calendrier, comme d'habitude. Oui. Merci beaucoup, Romain Marchand. Alors, parmi les nouvelles façons de consommer, il y a, on le disait aussi, le marché de la seconde main. Quelques hypermarchés s'y essaient un peu, parfois, avec quelques rayons de vêtements déjà portés. Le marché de la seconde main, il a le vent en poupe en ce moment, Vinted, sur Internet, ou en boutique physique aussi. Écoutez ce reportage chez Dingue Fringue, c'est le plus grand réseau français de la seconde main en physique, fondé par la communauté Emmaüs. Les magasins Dingue Fringue cartonnent parfois à deux pas même des centres commerciaux. Exemple dans ce reportage près de Béthune, à Bruay-la-Buissière, c'est dans le Pas-de-Calais donc, 700 mètres carrés de boutiques de seconde main, c'est la plus grande en France, après Salaise du côté de Lyon. Reportage micro ouvert de Sandrine Houdin.
Des vêtements sur cintre, classés par taille, par couleur et par catégorie. On les achète par lot, cette vendeuse nous explique.
4,50€, les 3 pour 10€ et les 5 pour 15€. L'enfant, c'est 8 pour 10€.
Et alors, là, il y a des antivols.
C'est autre chose, c'est des vêtements qui sont haut de gamme.
À 1/5 du prix du neuf, pourquoi se priver ? Cette maman a déjà choisi une dizaine d'articles.
Une robe pour la petite, puis des vêtements pour moi.
Pourquoi êtes-vous ici ?
Parce que c'est pas cher du tout.
Même sa petite fait des emplettes.
C'est un sac pour mettre du maquillage.
À mettre du maquillage ?
Oui, j'en ai beaucoup.
Et maman va acheter le petit sac ?
Oui.
Quel prix, par exemple, le petit sac ?
Moins de 2€, je pense.
Je regarde ça tout de suite, madame.
1€.
Très bien.
Voilà. Madame, concert de cintre, là. Hein.
Une autre cliente.
Pourquoi êtes-vous là, plutôt qu'aller au centre commercial juste à côté ?
Parce qu'on aime bien faire des bonnes affaires. Ouais. On fait attention à notre porte-monnaie, comme tout le monde. Hein. Ouais. On dépense pour les nécessités, l'alimentaire déjà, les factures ensuite. Puis bon, forcément, les vêtements, ça passe après. Et on n'a plus l'argent pour les surplus maintenant.
Acheter du neuf.
Acheter du neuf. Puis bon, finalement, on sait que ça donne une deuxième vie aux vêtements, c'est bien quoi. Ouais. Vaut mieux peut-être acheter un vêtement déjà porté et qu'il n'y ait pas de transport dessus et qu'il n'y ait pas de produits qui viennent de l'étranger. Et
pour la planète.
Ouais. Pour la planète, c'est très bien quoi, finalement. Ouais. Ça fait des trajets en moins, de la pollution en moins et je préfère Dingue Fringue.
C'est votre fille ?
Oui.
Tu as quel âge ?
13 ans.
Très sincèrement, ça te gêne d'acheter un vêtement qui a déjà été porté ou pas ?
Non.
T'as pas envie, pour tes copines, d'avoir le dernier cri du vêtement neuf ?
Bon, pas forcément.
Sincère, votre fille, là ?
Oui, sincère. elle s'en moque. Hein.
Est-ce que les centres commerciaux ne sont plus à la mode, carrément?
Ouais, peut-être. Oui.
Justine Baudin, la responsable d'Ingfring Pas-de-Calais, confirme l'évolution.
Parce qu'il y a quelques années, on avait honte d'aller en friperie, que maintenant c'est tendance. Les gens viennent, flânent, chinent, et il y a un côté familial, il y a un côté commerce de proximité qu'on retrouve chez nous, qu'on ne retrouve plus forcément dans les grandes surfaces.
D'où l'évolution aussi de la clientèle.
Ça va de la maman qui a 3-4 enfants, qui a du mal à boucler les fins de mois, et puis on a la femme d'avocate, on a la femme de médecin qui vient parce qu'on a de très grandes marques, on a de la belle qualité, et c'est la pépite qu'elle va trouver chez nous qu'elle ne trouvera pas ailleurs.
Et là, c'est complètement fou le nombre de portants.
On met en rayon tous les jours, donc les clients ont de la nouveauté tous les jours. Et sur le Nord-Pas-de-Calais, on déballe entre 20 et 25 tonnes par semaine.
Rayon lingerie, cette jeune femme m'a trouvé 3 soutiens-gorge.
Je pense qu'en 9, là, j'en ai facile au moins pour 60 euros.
Et là ?
5 euros.
Ça vous gêne pas d'acheter de la lingerie d'occasion ?
Non, bah non. Après, c'est les soutiens-gorge, c'est pas les culottes. Voilà pour vous. Merci.
Cabine d'essayage, c'est là-bas.
Bon, je vais essayer ça peut-être. Je sais pas. Est-ce que c'est beau ?
Madeleine, 83 ans, une habituée.
Ma fille m'engueule tout le temps parce que tu ramènes tout le temps des trucs et tu regardes pas ton indice de noir. Bon, maintenant, je me suis calmée un petit peu. Hein. Et j'ai beaucoup grossi, mais bon, où est-ce que vous allez trouver un truc à 3 francs, à 3 euros ?
Pas dans une boutique traditionnelle, unanimité dans le magasin.
Ici, j'étais jamais venue. Ça vaut vachement le coup.
Donc ça nous fait un total de 40,50 euros, s'il vous plaît.
Pour 3 sacs remplis à ras-bord.
Alors on a une petite chemise garçon avec du beige, du blanc, un manteau, une deuxième chemise un peu dans les mêmes tons. On a un pantalon classique noir pour moi, une petite chemise noire aussi.
Ah, ça continue.
Ouais.
Vous pensez que dans le centre commercial juste à côté, là, vous en auriez pour combien ?
200 euros, au moins.
Ah, un monsieur.
Regardez-moi ce manteau. US Navy, magnifique.
Combien ?
16 euros.
Personne suivante, s'il vous plaît.
Attendez, je vous laisse payer.
4 chemises, c'est ça ? Une jupe, un manteau et puis 2 paires de gants.
Donc en carte.
Sur le ticket.
37,50 euros, si j'ai pas de bêtises.
Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez au centre commercial d'à côté ?
Les tailles. Globalement, on a des choses un peu slim, un peu taillées sur des mannequins brindilles.
Au revoir.
Ici, il y a aussi ce côté un peu trésor, dénicher le trésor un peu. Il y a un truc en plus, un petit truc en plus.
Votre copine, là, elle est repartie dans le sens inverse, elle fait tous les rayons. Madame, madame.
Je vais partout dans ce magasin. 4,50 euros un article, franchement. Allez vous rhabiller à ce prix-là. C'est la folie d'aller acheter du neuf. C'est pour en arriver à la même chose. Vous achetez du neuf, vous allez le laver, ce ne sera jamais plus neuf. Ben ici, c'est pareil, et c'est en très bon état. Et ça, c'est génial. Regardez ce produit. Ce beau manteau beige, classe, comme sorti du magasin, à 12,50 euros. Vous ne trouvez pas ce produit dans un centre commercial, pas à ce prix-là. Ouais. On est tenté de fouiller partout.
Quasiment addict.
Mais c'est ça, tout à fait. Une drogue, hein. C'est la drogue du vêtement.
Et
c'est
pas en centre commercial.
Non, et non.
Enfin, voilà pour ce micro ouvert de Sandrine Houdin. Le marché de la seconde main chez Dingfring, c'est à Bruay-la-Buissière, près de Béthune. Quel avenir pour les centres commerciaux et leurs galeries marchandes ? On en parle jusqu'à 19h avec nos deux invités à suivre. Je vous présente l'équipe d'Une semaine en France. À la rédaction en chef cette semaine, il y a Corinne Boulou, réalisation Juliette Gou. Un grand merci à Benjamin Ducy qui m'a aidé à préparer cette émission.
I see stars.
A Shy Girl, une fille timide, c'était Holly Cook sur France Inter. Il est 18h36.
France Inter, le 18-20.
Quel avenir en France pour les centres commerciaux et leurs boutiques, galeries marchandes? On en parle avec vous à présent, Marie Cheval. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de la FACT, la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Et vous présidez aussi la Carmila, hein, qui détient, je crois, près de 200 centres commerciaux Carrefour en France, en Espagne, en Italie, me semble-t-il également. À propos de la fréquentation des centres commerciaux en France, vous ne semblez pas trop alarmiste. Pour quelle raison ?
Non, je crois que les Français sont très attachés aux centres commerciaux. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui viennent de sortir ou de rentrer dans un centre commercial.
On s'aperçoit... Nous ne sommes pas au bout d'une logique ?
Non. D'ailleurs, ce qui est intéressant quand on regarde un petit peu, quand on prend un petit peu de hauteur, c'est de voir ce qui s'est passé avec le Covid. Le Covid, vous vous rappelez, on était tous chez nous, les centres commerciaux étaient fermés, on a testé le 100% digital. Que s'est-il passé après le Covid ? Les Français se retournaient dans les centres commerciaux. Et on a aujourd'hui des chiffres d'affaires, des fréquentations qui sont très proches pour les fréquentations de celles des niveaux de 2019. Alors qu'on aurait pu tout à fait changer de comportement.
Je m'arrête sur le Covid et la reprise que l'on a vue apparaître depuis. Toutes les formes de centres commerciaux, qu'ils soient petits ou grands, se sont bien remis tous de la période Covid.
Tout à fait. Ouais. En France, il y a à peu près 800 centres commerciaux. Chaque jour, c'est 7 millions de Français en moyenne qui vont dans un centre commercial. 7 Français sur 10 y vont au moins une fois par mois. Donc on voit que ça fait vraiment partie de notre culture. Pourquoi on aime aller dans un centre commercial ? Pour y faire des achats, évidemment, mais aussi parce que c'est un lieu social. C'est un lieu accessible, gratuit, sécurisé, où on peut aller en famille, où là, par exemple, en décembre, il y a plein d'enfants qui vont aller rencontrer le Père Noël dans les centres commerciaux. C'est un lieu qui est devenu une sorte de second centre-ville. J'étais la semaine dernière à Hermont. Il y a une cafétéria, le matin vous êtes là, il y a un nombre incroyable de personnes qui viennent pour prendre le café et discuter. C'est ça aussi la réalité des centres commerciaux, et ça vaut quelle que soit la taille du centre commercial. Les centres commerciaux, ils font partie de notre vie, ils ont été créés il y a 40 ou 50 ans. Ils font aussi partie de notre vie parce qu'ils ont beaucoup été transformés. Il y a eu beaucoup de choses de faites, y compris depuis le Covid, pour développer, par exemple, du loisir dans les centres commerciaux. On parlait de paddle. Pour développer de la santé.
On en parlait en rantaine,
voilà, on parlait
du paddle.
Pour développer
qui arrive dans les centres commerciaux pour leur redynamiser, voilà, retrouver
tout
un dynamisme.
Oui. Il y a de la santé dans les centres commerciaux. Par exemple, il y a 10 ans, il n'y avait pas de centre dentaire dans les centres commerciaux. Aujourd'hui, il y en a. C'est aussi beaucoup plus de sport, d'une restauration renouvelée. Il y a eu un énorme travail de transformation dans les centres commerciaux. Et donc, les fréquentations sont en augmentation, les chiffres d'affaires également. Et je crois qu'il faut ne pas avoir parfois un effet loupe. C'est-à-dire qu'on a tendance à avoir une photo d'un centre commercial un peu en difficulté. On se dit, oh là là, tous les centres commerciaux sont en difficulté. Ça n'est absolument pas le cas.
Sans mettre de loupe sur un cas particulier, je lisais l'étude de Xerfi là, sur le commerce à l'horizon 2026, qui souligne que les taux de vacances de locaux commerciaux dans les galeries marchandes étaient en train d'atteindre des niveaux préoccupants. 15% de locaux vacants dans les centres commerciaux. Est-ce que cela vous inquiète ?
Je crois que là,
pour le centre commercial.
Alors, par exemple, chez Carmila, le taux de vacances, il n'a jamais été aussi bas. Il y a évidemment certains centres commerciaux qui sont en transformation. On le citait avec le cas d'Ivry. Le cas d'Ivry, qu'est-ce qui se passe ? La ville change autour d'Ivry.
La ville est coincée entre la Seine d'un côté, voilà, le rail de l'autre et Paris.
Et on demande et de plus en plus des projets de mixité urbaine pour mélanger du résidentiel, du commerce. Donc oui, certains centres commerciaux sont en transformation profonde. Et c'est d'ailleurs très, très bien. Mais ça n'est absolument pas le cas de la majorité des centres commerciaux. Nous avons inauguré, par exemple, une rénovation du centre commercial Le Géric à Thionville il y a 15 jours. C'est un centre commercial, il avait été inauguré par Johnny Hallyday en 1971. On l'a transformé. C'est plus du tout les mêmes commerces, c'est plus du tout les mêmes parcours clients, c'est plus du tout les mêmes espaces de restauration.
On l'a un peu abordé. Comment est-ce que l'on fait évoluer selon quel levier on attire le client aujourd'hui dans un centre commercial ?
D'abord, le client, il souhaite que ça soit très accessible. Donc, il faut pouvoir venir dans un centre commercial, s'y garer facilement, s'y sentir accueillir. Ensuite, les clients, ils viennent dans un centre commercial pour y trouver les magasins qu'ils ont envie de voir. Et donc, en permanence, on essaye de s'adapter aux évolutions de consommation des Français, avec des magasins qui aujourd'hui font envie. Par exemple, on a, nous, 15 Rituals dans nos centres commerciaux. On vient d'ouvrir un Aromazone, un Lego, avec des magasins en phase avec les attentes de pouvoir d'achat des Français. C'est beaucoup de magasins qu'on appelle de smart value, pour pas dire discount, des actions, des normales, des adopt. Il y en a dans tous les secteurs de la société. Et puis, c'est aussi des lieux qui doivent être accueillants pour les familles. Nous, nos clients, ils viennent beaucoup en famille. On parlait du Père Noël, on parle d'animation, on parle vraiment, quelque part, de place de village. Donc, c'est tout ça que les entreprises comme Carline là mettent en œuvre pour transformer les centres commerciaux.
Parmi les attentes, il y a aussi les questions environnementales. Est-ce que les centres commerciaux s'emparent des questions environnementales? Est-ce que c'est un sujet chez vous?
Tout à fait, c'est un sujet. Par exemple, chez Carmila, et c'est le cas pour nos autres collègues, nous avons baissé nos émissions de carbone de 50% depuis 2019 en changeant des toitures, en mettant des LED, en transformant les systèmes de climatisation. Aujourd'hui, les clients nous demandent de plus en plus de végétalisation. On met davantage d'arbres sur les parkings. Il va aussi y avoir des panneaux photovoltaïques. Et ça fait partie de toute cette transformation des centres commerciaux pour coller le plus possible aux attentes des Français.
Vous n'avez pas le sentiment que les Français, les consommateurs ont envie de retourner dans les centres-villes? Alors effectivement, c'est compliqué de se garer, mais là aussi, il y a des boutiques et les habitants en ont peut-être marre aussi de voir les centres-villes dépérir.
Alors, je crois qu'il ne faut pas opposer les différentes formes de commerce. Les clients, ils veulent tout. Ils veulent aller dans un centre commercial, de temps en temps ils veulent aller en centre-ville, ils veulent même pouvoir commander en ligne le e-commerce. Et donc je crois qu'il faut une offre complète. Nous avons des centres commerciaux qui travaillent très bien avec les centres-villes. Voilà. Et le sujet des centres-villes, on est prêt à y travailler également. Mais je crois que c'est un peu facile de dire c'est les centres commerciaux qui ont fait que les centres-villes dépérissent.
C'est lié en tout cas.
C'est lié, mais
on
si
peut
je
ajouter
reprends,
le e-commerce après, mais la première...
Les centres commerciaux, encore une fois, la majorité, ils ont 40-50 ans. Ça fait quand même longtemps qu'ils sont là, bien avant qu'on parle de difficultés des centres-villes. Donc oui, il faut redynamiser les centres-villes et il faut aussi des centres commerciaux qui soient transformés et puis que les clients puissent choisir eux-mêmes là où ils veulent du commerce.
Et vous nous avez expliqué ce soir avec quel levier les centres commerciaux allaient s'adapter donc pour se réinventer et trouver un avenir. Merci beaucoup Marie Cheval, présidente de la FACT, la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires. Quel avenir donc pour ces centres commerciaux en France? C'est le thème d'une semaine en France. Qu'est-ce que ces grandes halles modernes disent de nous, de nos modes de vie, nos modes de consommation? C'est le thème qu'on va aborder à présent avec vous. Bonsoir Vincent Chabot.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, spécialiste de nos modes de consommation, enseignant à l'Université de Paris et à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre intitulé « Sociologie du commerce » paru l'an dernier chez Armand Collin. De quoi les centres commerciaux sont-ils devenus le symbole en 2025?
C'est vrai que le cas du Covid est intéressant, parce que finalement, on peut parler de crise des centres commerciaux, on peut effectivement examiner leur fréquentation, il y a une fréquentation qui est stable, hein, finalement, il n'y a pas eu de grand déclin, alors même que c'est le format qui a le plus souffert de la crise des confinements, il a fermé très longtemps, certaines enseignes, dans leur ensemble, ont aussi périclité, notamment dans le milieu de gamme du prêt-à-porter, etc. Moi, je crois qu'il faut aller rechercher du côté des usages sociaux des centres commerciaux, c'est-à-dire voilà ce que les gens font du centre commercial. Et beaucoup d'enquêtes sociologiques ont été menées sur ce sujet pour montrer justement, contre le lieu commun du lieu déshumanisé, justement c'est tout le contraire. C'est-à-dire que
Il y a une sociabilisation que l'on vient chercher
à
dans
différentes générations.
Le centre commercial.
On peut regarder les retraités, par exemple, on voit très bien à quel point ces lieux-là, les canapés, les rambardes, etc., sont investis pour croiser du monde, pour nouer des petites relations qui rompent avec l'isolement. Des lycéens de Seine-Saint-Denis, les enquêtes au Forum des Halles ont montré par exemple que le Forum des Halles était un accès à un Paris abordable par rapport à un Paris effectivement plus huppé, plus bourgeois, plus inaccessible pour eux. Les adolescents, c'est effectivement un lieu aussi sécurisé, vous l'avez dit, d'apprentissage de la consommation, un lieu qui fait aussi, qui donne accès à des plaisirs immédiats. Et puis, un peu plus loin de nous...
Les plaisirs immédiats, c'est l'achat à l'instinct?
Oui, c'est l'achat à l'instinct, des petits achats, de la petite consommation, on vient finalement apprendre à consommer dans ces lieux-là. Et puis, d'autres enquêtes ont été menées aussi dans des lieux où il n'y a pas véritablement véritablement d'espace public et le centre commercial fait office d'espace public. C'est un peu comme ça d'ailleurs que Victor Gruen, dans les années 50 aux États-Unis, avait créé le concept. En Arabie Saoudite, ça peut être assimilé à des lieux où le pouvoir familial et religieux va être desserré pour des jeunes adolescentes qui vont par exemple découvrir la mode occidentale. Donc en regardant comme ça différents endroits de la planète, pour différentes générations, on voit à quel point les usages sociaux sont intéressants à examiner pour comprendre la pérennité du dispositif, même si évidemment il se recompose, on en a parlé, la restauration, l'divertissement, le sport, il se recompose aussi en termes de localisation. Moi je suis frappé de voir à quel point les gares parisiennes sont devenues des centres commerciaux, ou d'autres centres commerciaux parisiens ont été rénovés récemment.
Vous êtes en train de nous dire que les centres commerciaux, et on l'évoquait tout à l'heure avec Marie Cheval, les galeries marchandes ont remplacé les centres-villes des années 80, un peu, avec leurs bars, leurs...
Je pense qu'ils se complètent. C'est-à-dire que voilà, vous l'avez dit, les Français sont fréquentent le canal digital, les centres commerciaux, etc. Il faut savoir quand même que le centre commercial aujourd'hui dans les enquêtes ne fait plus rêver, en tout cas, ce ne correspond plus à l'idéal, à la modernité commerciale, à l'idéal commercial des Français, mais malgré tout, 63% des dépenses y sont réalisées contre 12% en centre-ville. Je dis souvent que le centre-ville, tout le monde l'adore dans les enquêtes d'opinion, mais personne ou très peu de gens, en fait, y réalisent leurs courses. Donc, effectivement, c'est un modèle, même s'il se récompose, il se relocalise, qui a de l'avenir.
Quand on regarde les supermarchés et les hyper et les centres commerciaux en France, on regarde aussi ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'il y a quelques décalages, mais ce qui arrive aux États-Unis nous arrive quelques décennies après. Aux États-Unis, il y a une expression qui mentionne l'apocalypse pour illustrer là, les fermetures de magasins concurrencés par le e-commerce depuis une dizaine d'années. Cette vague de grands remplacements commerciaux, elle est irrémédiable aux États-Unis
en France. Alors non, justement, aux États-Unis, on parle de dead malls. La situation n'est pas du tout la même en France. Et puis, ce serait évidemment trop facile d'accabler et d'accuser Amazon. La crise est multifactorielle. Il y a notamment aussi un tabou dans ce secteur-là, c'est le surdéveloppement commercial. C'est-à-dire qu'on a, notamment autour de Paris, construit beaucoup trop de centres commerciaux par rapport à la demande, par rapport à la progression lente de la consommation. Il y a également une évolution de la demande. On a vu avec la banalisation, la massification de la seconde main, la plateformisation de la consommation, évidemment, il faut le rappeler aussi, l'évolution de la demande, et puis voilà, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de facteurs qui aujourd'hui expliquent effectivement les transformations profondes du commerce.
Vous l'avez très bien expliqué, les centres commerciaux et les centres-villes se complètent plus qu'ils ne se concurrencent, en tout cas c'est dans cette ligne, dans cette trajectoire qu'il va falloir réfléchir. Dans les centres-villes de demain, est-ce que les boutiques ne seront plus des commerces de textiles, mais plutôt des commerces de bouche, des commerces de plutôt sociaux?
Bon, effectivement, depuis 2013, la crise du commerce non alimentaire, ce sont, vous l'avez dit, les commerces d'habillement et de chaussures. Énormément de points de vente ont disparu, sous l'effet, encore une fois, de plusieurs éléments. La fast fashion, l'ultra fast fashion, le surdéveloppement commercial, la crise du pouvoir d'achat, etc. Le commerce de bouche, les artisans alimentaires, les restaurants, les fast-food, etc., se portent très bien aujourd'hui. Donc il y a aussi, de la même manière que dans les centres commerciaux, le centre de gravité des centres commerciaux évolue, le centre de gravité marchand des centres-villes aujourd'hui se déplace vers l'alimentaire.
Et on l'a dit depuis le début de l'émission, il faut composer avec le e-commerce. Comment cette méthode d'achat a modifié à la fois nos modes de consommation, mais aussi nos rapports sociaux?
Alors, le commerce en ligne représente 10% du commerce de détail en France. Seulement.
C'est peu par rapport à ce qu'on a.
Voilà,
ce qu'on
a.
Alors, c'est contre-intuitif.
Tout dépend du marché. Le livre, c'est 20%. L'habillement, c'est 29%. Tout dépend des domaines, évidemment.
Mais en moyenne, c'est 10%.
Effectivement, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir en quoi la domiciliation de la consommation, c'est-à-dire que le commerce en ligne, la commande en ligne, vient réorganiser la ville. On voit notamment, on manque de données là-dessus, mais on voit également l'essor fulgurant, spectaculaire des relais colis et des casiers connectés qui viennent, en fait, dessiner une nouvelle proximité marchande numérique et qui, en silence, assez silencieusement, redessine les villes aujourd'hui.
Eh bien, merci. Vincent Chabot, je rappelle que vous êtes sociologue et je renvoie à votre dernier livre intitulé « Sociologie du commerce » paru l'an dernier chez Armand Collin. En 10 secondes, la littérature scientifique, en tout cas sur le commerce, elle est assez peu volumineuse, vous l'expliquez pourquoi?
Oui, elle a été en tout cas tardive, elle a mis du temps à se développer. Les historiens quand même, on connaît bien les centres commerciaux, les grands magasins bien entendu du 19e siècle. Aujourd'hui c'est un peu mieux documenté.
Merci beaucoup Vincent Chabot et bon début de soirée. Voici Arthur H.
Oh ma beauté, suis-moi. ne fait que commencer. Écoute les bruits de la fête, les basses, les rires, les baisers. Oh, je suis le carnaval, ton idiot, ton fatal. Toi, tu es la cannibale, mon Brésil, ma papaye. Oh, give me up, abandonne. Oh, give me up, et laisse couler. Give me up, laisse monter. Oh, give me up, sans résister. J'ai rempli d'eau de mer la piscine pour mon Titanic et mes sardines. Les narvals, les filles nues. Oh mon amour, la fête continue. Oh, le jardin du pavillon, je le change en forêt primitive pour que les voisins du lotissement plus jamais ne retrouvent leur maison. Give me up, abandonne. Give me up, laisse couler. Give me up, laisse monter. Sans résister. Give me up. Abandonne. Give me up. Laisse couler. Give me up. Laisse monter. Give me up. Sans résister. La la la. Ma coquine, ma divine, à l'aube tu enfiles ton costume de rossignol de Chine et le soleil se lève pour t'adorer. Oh, après le câlin du matin, je te donne ton lait de lionne, puis je ferai le pouls.
Give me up, c'était Arthur H, le choix de Djoubaka. Une semaine en France, à la technique de l'autre côté de la vitre. Il y a Fabrice Desmaz, Philippe Duclos et Mélissa Etroit. Un grand merci à eux.
France Inter, le 18-20, Éric Delvaux.
L'actualité en région, à présent l'actualité d'ici et d'ailleurs, avec l'indispensable concours des radios du réseau ICI. Nous sommes en ligne avec les journalistes d'ICI Picardie, ICI Armorique, ICI Berne, Bigorre, Axel Labbé, Johan Moison et Daniel Corsan. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
On va commencer à Amiens, Axel Labbé. Voilà un miel de tilleul de Picardie qui vient d'être labellisé IGP.
Absolument, cela fait 25 ans que les apiculteurs picards attendaient ça. L'IGP, c'est bien sûr l'indication géographique protégée, vous la connaissez pour la tome de Savoie ou les moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est donc autour du miel de tilleul de Picardie, car dans notre région, nous avons justement beaucoup de forêts de tilleul, comme celle de Chantilly, qui à l'origine signifie « champ de tilleul ». La Picardie est donc officiellement devenue une terre de miel, comme dans le sud de la France. Et si la production augmente, c'est une conséquence du réchauffement climatique. Les étés sont plus chauds, en Picardie comme ailleurs, mais chez nous, il y a toujours de l'eau et de la fraîcheur, indispensables aux abeilles, à tel point que certains apiculteurs du sud de la Loire envisagent de transporter leurs ruches chez nous, plus au nord, pendant la saison, pour produire, eux aussi, du miel de Picardie. L'IGP va également permettre à tous ces professionnels de peser auprès de la grande distribution et de viser le marché international. La Belgique, l'Allemagne ou les labels sont un argument de vente. Alors ce miel, je vous en parle depuis tout à l'heure, mais quel goût a-t-il ? Eh bien, c'est un miel frais, typé, mentholé, qui accompagne aussi bien le fromage que le rôti de porc. Il faut simplement l'ajouter froid dans l'assiette, sinon il risque de perdre un petit peu de sa saveur. Et je vous invite bien sûr à le goûter. Eric, on en a un pot dans la cuisine d'ICI Picardie, on vous attend.
Et j'arrive, vous m'en gardez une cuillère, à tout de suite, Amiens, Axel Labbé. On va rester avec les agriculteurs, cette fois à Saint-Brieuc, Johan Moison. À propos des facélies, ces fleurs qui colorent en ce moment la campagne bretonne, pourquoi ces facélies rendent-elles bien service aux agriculteurs ?
Alors c'est vrai qu'on en voit un peu partout en ce moment, le long des petites routes, c'est magnifique. Pourtant la facélie n'est pas une nouvelle venue ici dans la campagne bretonne, originaire d'Amérique centrale. Cette plante est même utilisée depuis plusieurs années comme engrais vert pour éviter de laisser les sols nus. Et si elle est plus visible cette année, c'est parce que les moissons ont eu lieu plus tôt que d'habitude, nous a expliqué une conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture. Elle a donc pu être semée plus tôt et elle a eu le temps de fleurir. Alors la facélie à feuilles de tanaisie, c'est son nom complet, rend de nombreux services aux agriculteurs grâce à ses profondes racines. Elle stocke les nutriments du sol pour la culture suivante, crée de l'humus, améliore la fertilité et contribue à la biodiversité. Elle fait des fleurs, c'est bon pour les abeilles, les revoici. Elle n'est pas récoltée, à la fin de l'automne, elle est simplement détruite et réintégrée dans le sol. De plus en plus, la facélie est mélangée à d'autres engrais verts, comme le tournesol, ce qui rend les champs encore plus jolis. On peut aussi l'utiliser dans son potager, Eric. Les semences sont disponibles en jardinerie, mais la période idéale pour la semer reste le mois de juillet. On a donc encore un peu le temps.
Merci beaucoup. À Pau à présent, Daniel Corsan. Le musée de la ville remet à l'Espagne un tableau de Murillo après avoir découvert qu'il avait été volé au 19e siècle.
C'est l'histoire d'un tableau qui se trouvait au musée des Beaux-Arts de Pau, acheté par le conservateur de l'époque en 1907. Une petite esquisse de l'artiste espagnol Bartolomé Esteban Murillo, Murillo pour les intimes, un peintre sévillan du XVIIe siècle. Alors, c'est l'esquisse d'un grand tableau qui se trouve au musée du Prado à Madrid, Sainte-Anne apprenant à lire à la Vierge. Cette petite esquisse était au stock, elle n'a quasiment jamais été exposée à Pau. Et puis, lors de l'inventaire du fonds qui se fait environ tous les 10 ans, on s'est rendu compte que ce tableau, qui était jusque-là considéré comme un tableau d'après Murillo, était en fait de la main du maître et jusqu'à faire le lien avec ce vol commis au musée du Prado en 1897. C'était bien avant l'invention du monte-charge et la naissance de Doudou Crosbitume. Tout de suite, le musée de Pau a pensé à le rendre comme s'il lui brûlait les doigts, mais ce n'est pas si simple. La législation des œuvres d'art ne permet pas de rendre l'œuvre. La loi française protège les œuvres, même quand elles sont volées. Mais comme on a de l'éthique en Béarn, le musée de Pau a décidé de prêter l'œuvre au musée madrilène pour la durée maximale autorisée, c'est-à-dire 10 ans. D'ici là, les textes auront peut-être changé. En attendant, l'œuvre a été chargée discrètement dans un camion, jeudi. Le secret a été bien gardé. On a demandé aux médias d'attendre qu'elle soit bien arrivée, pour s'assurer que personne ne vole le tableau volé.
Eh bien, effectivement, un grand merci à tous les trois. C'était l'actualité d'ici et d'ailleurs avec nos amis du réseau ICI.